Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, vous pouvez également écouter l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie et d'autres informations, magazines culturels. Avant de terminer cette émission, nous allons présenter également l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour ce soir. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Secrétaire, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. L'économie des habitants du géoparc de Ciletus-Sukabumi continue d'améliorer. Les investisseurs de Kelantan sont intéressés à investir à pesisir selatan. Le ministère de l'Agriculture invite des instructeurs agricoles à réaliser le Grenier alimentaire mondial 2045. Les produits alimentaires et de boissons d'Indonésie ont pénétré le marché espagnol. L'Indonésie est désignée comme meilleure destination touristique halal au monde en 2019. Et enfin, des étudiants indonésiens de 13 pays se réuniront en Chine. Voici le journal complet. Le développement économique des habitants autour du géoparc de Ciletus, Palabuhan Ratu, dans la région de Sukabumi à Java Occidental, continue de développer. Ceci est basé sur le nombre de petites et moyennes entreprises qui se développent autour du géoparc. Comme indiqué par Republika Online mercredi, le géoparc de Ciletus, Palabuhan Ratu est une attraction touristique qui a été désignée comme la partie de l'éducation, la science et la culture de l'Organisation des Nations Unies en 2018. Le processus de détermination n'est qu'environ 3 ans après être devenu un géoparc national. Le régent de Sukabumi, Marwan Hamami à Sukabumi, a déclaré que le gouvernement encourageait de nouvelles installations de soutien qui sera une préoccupation dans le géoparc. L'une d'entre elles consiste à développer de nouvelles idées afin que les gens ne viennent pas seulement pour voir des roches. Selon Marwan, le développement de géoparc est également réalisé avec la participation de la communauté pour que les habitants autour du géoparc puissent ressentir l'impact positif de la présence du géoparc. Un investisseur de Kelantan en Malaisie a exprimé son intérêt à investir dans le secteur du biodiesel dans la région de pesisir selatan Sumatera Occidental. Cité par Antara, le régent de pesisir selatan Hendra Yoni, après avoir rencontré les investisseurs de Malaisie à Painan mercredi, a déclaré que les investisseurs étaient 7 personnes dirigées par Datuk Sri Wan Nasser. Selon lui, Datuk Sri Wan Nasser et ses collègues sont intéressés à investir après avoir su les ressources abondantes qui soutiennent le biodiesel dans la région. Hendra Yoni a ajouté que le gouvernement de la région accueille bien le plan et faciliterait la gestion de tous les permis. Le ministre indonésien de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, a invité les instructeurs agricoles à travailler plus solide pour réaliser l'Indonésie comme grande alimentaire du monde en 2045. Le ministre Andi Amran Sulaiman a déclaré cette question à l'événement de l'appréciation et synchronisation des instructeurs et des agriculteurs à Makassar, Sulawesi du Sud, mercredi. L'augmentation de l'agriculture indonésienne est actuellement très prometteuse. Même au cours des 4 dernières années, l'agriculture indonésienne est passée avec succès dans plusieurs grands pays, entre autres le Japon, les Pays-Bas et l'Allemagne. Des représentants de l'ambassade indonésienne à Madrid, représentés par l'attaché du commerce et le Centre indonésien de promotion du commerce de Barcelone, ont participé à la 33e exposition internationale Salon de Gourmet. Cette exposition est une exposition internationale sur les aliments et les boissons, mettant en vedette des produits alimentaires de première qualité, entre autres des produits de fruits, de mer, de la viande, de la volaille, d'où les et des assaisonnements. Eri Deviandi, l'attachée pour les informations sociales et culturelles à l'ambassade d'Indonésie à Madrid, a déclaré dans un communiqué reçu par Antara jeudi que l'exposition ouverte par le ministre espagnol de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Luis Plana Puchat, affichait également des boissons telles que des produits de fermentation de fruits, du thé, du café et du cacao. La participation de l'Indonésie à cette exposition vise à pénétrer le marché des produits alimentaires, des boissons et des épices pour les régions d'Espagne, d'autres pays d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique et de la Méditerranée. L'exposition a eu lieu à IFEMA Madrid du 8 au 11 avril. L'Indonésie est désignée comme meilleure destination touristique halal au monde en 2019 de la norme du Global Muslim Travel Index 2019 surpasse 130 destinations du monde entier. Le président directeur général de Crescent Rating, Fazal Bahardin, lors de la publication du rapport sur Global Muslim Travel Index 2019 à Jakarta, a affirmé que l'agence de notation Mastercard Crescent a classé l'Indonésie au premier rang de la norme Global Muslim Travel Index avec la Malaisie au premier rang. En tant que meilleure destination touristique halal au monde, l'Indonésie a enregistré une augmentation graduelle du 6e rang en 2015 au 4e rang en 2016, au 3e rang en 2017, au 2e rang en 2018 et enfin au premier rang du Global Muslim Travel Index en 2019. Fazal Bahardin a déclaré que les efforts déployés par l'Indonésie pour obtenir la meilleure position avaient été faits sérieusement en faisant Indonesia Muslim Travel Index qui fait référence au nom de Global Muslim Travel Index. Des centaines d'étudiants membres de l'Association des étudiants indonésiens de 13 pays et régions se réuniront à Tianjin en Chine pour discuter de la révolution numérique. Le symposium de l'Association des étudiants indonésiens de la région d'Asie et d'Océanie se tiendra du 16 au 19 avril en présentant le chef de l'Agence indonésienne pour l'économie créative, Triawan Munaf, comme conférencière d'honneur. Selon le président de l'Association des étudiants indonésiens en Chine, Fadlan Muzaki, mercredi, la Chine est choisie pour accueillir le symposium car elle prépare une révolution industrielle 5.0 et que l'Indonésie pourrait tirer profit de l'expérience de la Chine dans la révolution industrielle 4.0. Ce symposium soulevera un thème majeur concernant le rôle de la génération du millénaire dans l'accélération de la révolution industrielle 4.0. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, se battre pour l'huile de palme indonésienne. La question de l'huile de palme indonésienne contre le plan de l'Union européenne visant à interdire l'utilisation de l'huile brute à l'horizon 2030 marque la nouvelle étape des relations commerciales économiques. Ce n'est pas seulement l'Indonésie, la Malaisie et la Colombie s'inquiètent de l'interdiction prévue. Les efforts de l'Indonésie pour délibérer sur le plan d'interdiction deviennent un réexamen ou une annulation de plus en plus intensive. La lutte de l'huile de palme brute indonésienne s'intensifie à la suite d'une campagne noire sur les effets de l'huile de palme et la question de la déforestation et de l'absorption de carbone. Pour discuter de l'huile de palme avec l'Union européenne, l'équipe de la délégation indonésienne présidée par le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Darmin Nasution, a effectué une visite officielle à Bruxelles, en Belgique, les 8 et 9 avril 2019. La visite du ministre Darmin avec les pays producteurs de pétrole membres du Conseil des pays producteurs de palmier à huile vise à approcher l'Union européenne afin d'annuler les projets d'interdiction de l'utilisation de l'huile de palme. Le ministre Darmin Nasution a déclaré que l'Indonésie et l'Union européenne avaient des relations mutuellement complémentaires afin que tout soit résolu correctement. Cependant, le ministre Darmin a déclaré que l'évaluation des produits de palmier à huile indonésien était une injustice au sein de l'Union européenne, ceci étant considéré comme des produits de biocarburant non durable. De plus, la question est devenue l'acte délégué qui a ensuite été adopté par la Commission européenne le 13 mars 2019. Il a estimé qu'il existait une discrimination à l'égard des produits de palme indonésiens. Pendant ce temps, l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Guérin, a déclaré que l'Union européenne est le deuxième marché des exportations d'huile de palme de l'Indonésie après l'Inde. En outre, les deux tiers des exportations d'huile de palme d'Indonésie sont exonérées de taxes. L'ambassadeur Vincent Guérin a déclaré que l'Union européenne voudrait toujours acheter de l'huile de palme d'Indonésie, mais choisirait une huile de palme durable. Et c'est ce que nous négocions. L'existence de l'acte délégué adopté par la Commission européenne est en effet une question pour nous. Pourquoi cela peut arriver pour les produits de plantation indonésiens? Non seulement il ne s'agit pas d'une industrie durable, mais la discrimination qui sera appliquée par l'Union européenne avec un double standard. D'une part, cela nécessite une énergie respectueuse de l'environnement, mais il n'aime pas l'origine qui est considérée comme n'ayant aucun élément de produit durable. En effet, l'Union européenne a beaucoup appris sur ce qui s'est passé dans les années 60 lorsque les pays producteurs de pétrole, notamment des Arabes, ont boycotté le pétrole à l'Europe lié à son soutien à la guerre arabe-israélienne. Parce que si les produits de l'huile de palme et leurs dérivés constituent le choix principal de l'Europe, si c'est arrivé, l'Indonésie et certains autres pays deviendront les dirigeants de l'énergie à l'avenir. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 11 avril. On commence par le 11 avril 1919, l'Organisation internationale du travail a été créée. L'Organisation internationale du travail, ou International Labour Organization, ou abrégé en ILO, a été créée le 11 avril 1919. ILO, ou en anglais ILO, est l'une des instances sous les auspices des Nations Unies. Elle a pour objectif de fournir des conseils pour la création de lois du travail relatives aux droits et obligations du travail. Les efforts déployés par ILO, entre autres, a conclu des accords sur les salaires, le nombre d'heures de travail et l'âge minimum et maximum des travailleurs, fourni des garanties de prévoyance vieillesse, ainsi que des dispositions concernant les congés ou les vacances de fonctionnaires, et a proposé que les pays membres déterminent le droit du travail. Le 11 avril 1951, le général MacArthur a été libéré de son poste de commandant en chef de la guerre de Corée. Le président des États-Unis, Harry Truman, a libéré le général MacArthur de son commandement au sein des forces armées américaines qui opéraient à la guerre de Corée. Le président des États-Unis a pris cette décision à l'égard du débat houleux entre le gouvernement et l'armée sur le règlement du conflit coréen. Tandis que le président Truman a choisi la paix et revenu au statu quo. Et le général MacArthur voulait prolonger le conflit, même en utilisant des armes nucléaires pour mettre fin à la guerre de Corée. Le 11 avril 1979, le président ougandais Idi Amin a été renversé. Le président ougandais Idi Amin était très autoritaire et répressif à ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. L'économie de l'Ouganda, auparavant prospère, a été détruite après la politique de nationalisation de toutes les sociétés et activités étrangères dans son pays par Idi Amin et l'expulsion de non-autochtones hors de l'Ouganda. En raison de sa politique autoritaire, le peuple ougandais s'est rebellé. Ensemble avec l'opposition avec l'armée ougandaise de libération nationale, ainsi que des troupes tanzaniennes, ont attaqué l'Ouganda, puis ont encerclé la capitale ougandaise Kampala. Enfin, le 11 avril 1979, cette attaque a contraint le président ougandais, Idi Amin, à perdre son poste et à s'enfuir en Libye avant de demander l'asile en Arabie Saoudite. Chers auditeurs, c'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Bersama waktu kau cemburu, kini kau menghilang seakan semua tak pernah ada. Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua. Pasti berubah, andai saja ada kesempatan kau berikan kita masih bersama.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était une chanson intitulée « Propriétaire du cœur » chantée par Calvin Jeremy. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique Modernisie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici Modernisie intitulée Le centre régional de renforcement des capacités pour des mers propres sera bientôt construit en Indonésie. L'Indonésie va immédiatement créer un centre régional de renforcement des capacités pour une mer saine, ou RC3S. À travers cette agence, l'Indonésie appelle à la coopération entre les pays et les parties prenantes afin de protéger les écosystèmes côtiers et marins des activités de sources de pollution provenant de la terre. Comme l'a déclaré la ministre de l'Environnement et des Forêts, Mme Siti Nurbaya, lors de son discours à l'ouverture de l'organe de coordination pour les mers de l'Asie de l'Est du Centre de capacité régionale pour des mers propres à Jakarta lundi. Par la création du Centre de capacité régionale pour les mers propres, la ministre Siti Nurbaya a demandé la collaboration et l'élargissement de l'appui en termes de coopération technique, de transfert technologique, de renforcement des capacités et d'échange d'expérience. La ministre Siti Nurbaya a également souligné que pour surmonter des problèmes liés à la protection des écosystèmes côtiers et marins, nous avons besoin d'une capacité capable à la fois techniquement, organisationnellement et politiquement. Cela est dû à la grande influence des dommages environnementaux causés par les écosystèmes côtiers et marins, à la fois des aspects économiques, écologiques et sociaux. L'existence d'une pollution qui endommage les écosystèmes côtiers et marins a un effet néfaste sur les revenus de personnes, notamment celles qui vivent de la mer, telles que les pêcheurs, l'industrie du tourisme et les services de transport maritime. La pollution provoque également une diminution de la fonction de l'environnement et une perte de la biodiversité marine. La ministre Siti Nurbaya a déclaré que le monde était actuellement confronté aux nouveaux défis en matière d'environnement marin tels que la pollution du plastique et du microplastique, les polluants émergents tels que les déchets de médicaments, les déchets endocriniens, les hormones, les poisons et l'éthropisation. Les écosystèmes marins et côtiers sont menacés par les activités marines et terrestres. Près de 80% de la pollution marine provenant d'activités humaines terrestres. L'initiative de créer le Centre régional de renforcement des capacités pour une mer saine fait partie des réalisations de l'accord de la déclaration de Bali résultant de la 4e réunion d'examen intergouvernemental tenue à Bali l'année dernière. Le lancement du Centre de capacité régionale pour des mers propres est prévu pour le 21 juin 2019. Au lendemain de la 24e réunion intergouvernementale de l'organe de coordination pour les mers de l'Asie de l'Est à Bali, le 19 au 20 juin 2019. Jerker Tamalander, le chef de l'unité des récifs coralliens de l'ONU pour l'environnement, qui était présent, espérait que cette réunion de consultation pourrait aider l'Indonésie à construire le Centre régional de renforcement des capacités pour une mer saine, en tant que l'engagement de l'Indonésie, notamment en fournissant d'importantes ressources telles que des bureaux, du personnel technique suffisant et le soutien financier clair. La réunion de l'organe de coordination pour les mers de l'Asie de l'Est du Centre de capacité régionale pour des mers propres qui a eu lieu le lundi et mardi, a été assisté par la délégation de 8 pays, à savoir l'Indonésie, le Cambodge, la Chine, la Corée, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam, et aussi le représentant de l'Unité des Nations Unies pour l'environnement des récifs de Corée. Chers amis, c'était Modernisie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Ada cinta yang sejati, ada ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Sejauh ku melangkah, hatiku kamu. Sejauh aku pergi, rinduku kamu. Masihkah hatimu aku, meski ada hati yang lain? Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Andai harus terpisahkan, mungkin
Voice of Indonesia.
C'était la deuxième chanson intitulée Espère encore, chantée par Ishana Sarasvati. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Chers amis, écoutez maintenant la rubrique Magazine culturel, une rubrique sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé La fête traditionnelle de Kato Boko. Le gouvernement de la Régence de Maros dans la province de Sulawesi du Sud, par l'intermédiaire du département de la culture et du tourisme, est prête à intégrer l'objet touristique et la culture pour soutenir le programme gouvernemental Merveilleuse d'Indonésie. Et jusqu'à présent, nous sommes plus concentrés sur les attractions touristiques naturelles. Mais maintenant, des objets de tourisme culturel sont également développés pour se soutenir mutuellement. L'un des tourismes culturels qui survit encore et qui est maintenu pendant des générations est la fête traditionnelle de la récolte Kato Boko. Elle est encore préservée par l'acteur coutumier du royaume de Marusu, M. Abdul Waris Karaing Sioja, avec la communauté locale. Katu buku et la fête culturelle réalisée une fois par an. Un symbole du début de la récolte et également montre une solidarité entre la noblesse et la communauté. En outre, cette activité traditionnelle vise également à résoudre les obstacles étant rencontrés par les agriculteurs, tels que les attaques de parasites, les sécheresses et les inondations. La fête traditionnelle de Katoboko a lieu au palais Bala Lompoa Karaing Marusu, la régence de Maros, dirigée par le chef coutumier de Karaing Marusu. Cette année, elle a été tenue pendant 2 jours, du 2 au 3 avril 2019. Depuis le matin, les habitants de Maros, notamment à Kasikebo, dans le sous-district de Maros Baru, se sont réunis à la maison traditionnelle de Bala Lompoa ke Karaingan Marusu. Les nobles du royaume Marusu portant des vêtements traditionnels Bugis Makassar et la communauté se sont dirigés vers les rizières coutumières appelées Toranu. Ils récoltent ensemble et ensuite les résultats de cette récolte ont été portés à la maison traditionnelle de Bala Lompoa ke Karaingan Marusu. Chers amis, c'était la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta, intitulée « La fête traditionnelle de Katoboko ». Merci à tous et à bientôt.
Voice of Indonesia.
Sejatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi dengan kotak sejuta mimpi aku datang menghampirimu ku perlihatkan semua hartaku tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat kesombongan di masa muda yang indah aku raja kau pun raja aku hitam kau pun hitam arti teman lebih dari sekedar materi pegang pundakku jangan pernah lepaskan.
aku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Remas sayapku jangan pernah lepaskan, bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Un véritable ami, chantée par Chico Jericho et Rio Dewanto. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Chers amis, pour RBC World, comme d'habitude, nous allons présenter l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde avec l'Indonésie en couleur en formant sur le festival Balai Nagi. Le 6 avril 2019, Antonius Gege Hajon, région de Flores Est, a ouvert le festival Balai Nagi, ou abrégé en FBN, sur la plage Oa, village de la plage Oa, district Wulanggitang, Nusa Tenggara de l'Est. Selon Antonius Gege, le FBN 2019 avait pour but de soutenir le potentiel touristique religieux déjà connu par les touristes, à savoir la procession du Vendredi Saint ou la Semana Santa. De nombreux touristes viennent à la Rantuka pour assister à la procession du Vendredi Saint. À cause de cela, le festival Balai Nagi a été organisé afin que les touristes puissent ajouter à leur séjour à la Rantuka en observant les attractions artistiques et culturelles et en visitant le potentiel du tourisme naturel à Flores de l'Est. En outre, le festival sert également à inviter les habitants de Flores Est qui vivent en dehors de l'île à revenir, car le nom du festival signifie « rentrer chez eux ». Le festival Balai Nagi a lieu en avril. L'ouverture aura lieu le 6 avril à la plage Oa, Wulanggitang, et se terminera au village Lamawohon, Solor de l'Ouest, le 26 avril 2019. Ce festival Balai Nagi évoque toutes les choses, la nature, la culture et la religion, notamment la Semana Santa. Diverses activités seront organisées lors de ce festival, telles que des activités de football, de folie de plage et de surf. Une activité très intéressante dans ce festival était l'activité de tissage Lama Holot, à laquelle assistent environ 1500 participants de toutes les régions de Flores de l'Est. Le festival de tissage Lama Holot aura lieu le 23 avril à partir de 15h jusqu'au soir. Le même jour, il y aura également des attractions de tissage, des expositions de tissage, des expositions culinaires telles que le miel Lewarok, le café Lewarok, le café Hokeng, est diverti d'aliments locaux. Les visiteurs peuvent déguster une variété de plats locaux. On va aussi lancer une exposition nationale sur l'enseignement et la formation professionnelle, suivie par des universités et des établissements d'enseignement professionnel à Java, Bali, Makassar, Jakarta et Nusa Tenggara de l'Est, dans le parc municipal Félix Fernandez Larantuka du 23 au 24 avril. Une vingtaine d'universités et d'institutions professionnelles participeront à cette exposition sur l'éducation et la formation professionnelle au niveau national. Afin de faire face à l'explosion de visiteurs, le gouvernement local a préparé des logements en guise de lieux de séjour compte tenu du nombre limité de chambres d'hôtel à Larantuka, qui ne sont qu'environ 500 chambres. Voilà l'Indonésie en couleur.
chers auditrices et auditeurs, c'était une chanson intitulée « Tu ne changeras pas » chantée par Mita Lestari. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, nous allons vous présenter des informations sur la chanson de la belle chanteuse Nike Ardila intitulée « Une lumière ». Elle est célèbre au début des années 90. La chanteuse, dont le vrai nom est Nike Ratnadila, a commencé sa carrière en participant à divers festivals de chants dans son lieu de naissance, Bandung. De divers festivals, elle a rencontré un producteur célèbre, Dedi Dores, qui voyait son talent et son potentiel en tant que chanteuse. Les chansons créées par Dedi Dores dans le premier album de Nike, intitulé « Une lumière », sont bien reçues par la communauté. Cela est prouvé par les ventes d'albums à 500 000 exemplaires à cette époque. L'album, sorti en 1989, a une chanson principale avec le même titre que le titre de l'album, à savoir « Une lumière ». Cette chanson créée par Dedi Dores est un genre de rock lente qui s'accorde bien avec la voix de Nike Ardila. La chanson intitulée « Une lumière » est devenue populaire à l'époque et a fait de la couleur d'une musique similaire à être une tendance qui a duré plusieurs années. Bon, serviteurs, avant de terminer notre programme, voici donc Nike Ardila avec sa chanson intitulée « Une lumière ». Bonne écoute et à bientôt.
Coba merenungi tentang jalan hidupku. Oh, kulangkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya.
Voice of Indonesia.
Chers amis de quatre coins du monde, cette l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Récit toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.